France Musique.
Merci Lionel Esparza, nous vous retrouvons lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Et le violoncelle de mon enfance, pour le magnétophone et pour le potentiel.
France Musique. Tapage nocturne, Bruno Le Thor.
L'invité de ce tapage nocturne sera Jean-Baptiste Favori, compositeur de musique concrète, électronique et instrumentale. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une ode à la guitare électrique, celle imaginée par le compositeur japonais Dai Fujikura. Très jeune, à l'âge de 15 ans, Fujikura se rend en Angleterre pour étudier la musique de film, mais la découverte de Boulez, de Ligeti et même de son aîné Tolo Takemitsu lui ouvre des voies différentes qui l'emmènent vers d'autres contrées inattendues. Il met alors la musique de film de côté et se passionne pour le langage contemporain, tout en cultivant des passerelles entre les musiques populaires, travaillant même avec David Sylvian, la figure emblématique du groupe Japan, avec qui il signera l'album Manaphone. En 2004, il compose Abandoned Time, une œuvre pour guitare électrique et ensemble, qui prend sa source dans les premières années du jeune étudiant japonais fraîchement débarqué au Royaume-Uni. Dans les dortoirs de l'internat qui l'abrite, nombreux sont les adolescents qui rêvent de devenir guitar hero et qui massacrent à longueur de temps cocaïne ou autre Stairway to Heaven. Dai Fujikura gardera ces sonorités un peu hésitantes dans sa mémoire et les intégrera à cette surprenante composition enregistrée par Daniel Lipple à la guitare et l'International Contemporary Ensemble sous la direction de Matthew Ward.
Thank you.
Upon a Time d'Ai Fujikura, interprété par Daniel Lippel à la guitare et l'International Contemporary Ensemble sous la direction de Matthew Ward.
France Musique, tapage nocturne, Bruno Le Thor.
Jean-Baptiste Favori est un compositeur surprenant qui ne cesse de brouiller les pistes. Alors qu'on l'attend compositeur de musique concrète, il nous présente son visage rock. Alors qu'on le surprend ingénieur du son, il devient compositeur pour l'image. Mais ce qui semble éclectique ne l'est qu'en apparence, une manière comme une autre d'effacer les frontières. Il est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Jean-Baptiste Favori.
Bonsoir Bruno.
Alors votre catalogue est pluriel, on y trouve aussi bien des musiques de scène, des musiques pour l'image, des musiques pour le concert, mais le fil rouge reste néanmoins sans ambiguïté la musique électroacoustique. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec celle-ci ?
Pierre-Henri, c'est mon père qui me faisait écouter lorsque j'avais, je sais pas, 6-7 ans, le Voile d'Orphée de Pierre-Henri. J'étais terrorisé et à la fois j'étais fasciné par tous ces sons, ces voix qui montaient vers l'infini et je me disais mais comment est-ce qu'on peut faire des sons pareils? D'où viennent ces sons? J'aimerais beaucoup le savoir.
C'était sur disque? C'était en concert?
C'était sur disque. Les disques argentés de prospective du XXe siècle. Voilà, c'était cette série-là. Donc moi, ma première rencontre, c'est avec Pierre-Henri et j'ai toujours adoré, bien sûr, sa musique. Oui.
C'est devenu un collector d'ailleurs, cette collection.
Sûrement.
Alors j'avais envie d'associer le mot éclectisme à votre travail, mais j'ai vu que vous le qualifiez plutôt de faussement éclectique.
Faussement éclectique parce que c'est... On a toujours l'impression, quand on écoute l'œuvre d'un compositeur qui change à chaque fois de processus, que c'est à la limite pas la même personne. Mais non, en fait, il s'agit toujours bien de la même personne, mais qui montre des facettes différentes et qui fait des recherches différentes à chaque fois. Je ne fais pas partie des gens qui trouvent un processus. Je citerai par exemple quelqu'un dont j'aime bien la musique en plus, hein, Merzbow, voilà, qui trouve un système et puis qui va l'exploiter à fond pendant des années et des années et des années. Je suis vraiment un peu l'antithèse de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais essayer de trouver un processus différent pour composer. C'est ça qui m'intéresse.
Vous avez travaillé aux ateliers UPIC, si cher à Xenakis. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience ?
Parce que j'ai été élève, bien sûr, aux ateliers UPIC, avant d'y travailler comme assistant musical. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup apporté là-bas, c'est vraiment l'enseignement de Gérard Pape, Jean-Claude Risser, Julio Estrada, Ariel Brecht, des grandes pointures en musique, hein, des gens très savants, beaucoup plus que moi, et qui m'ont apporté toute une connaissance qui, moi, qui n'avais fait que très peu d'études musicales, qui m'ont apporté une connaissance vraiment très importante pour la suite.
Thank you.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Thank you.
En regardant votre biographie, j'ai vu qu'il y avait eu une résidence au Mexique, à Monterrey, qui semble être importante pour vous.
Vous êtes bien renseigné, oui. La résidence au Mexique, elle est importante à plus d'un titre. D'abord parce que pour moi, ça a été une résidence par l'Alliance française, un super voyage pendant un mois et demi. Mais aussi, j'y ai rencontré ma future femme. Donc c'était bien, voilà, très utile. Et un fabuleux voyage et qui m'a apporté, bien sûr, beaucoup d'autres choses. Ça a changé profondément ma musique, bien sûr, parce que... Là-bas, la musique électroacoustique est complètement inconnue. Il y a rien, mais j'ai réussi à faire quand même quelques concerts là-bas, ce qui était étonnant. Et puis des sons, des prises de sons extraordinaires dans le désert. Il y avait des choses intéressantes à prendre. Et puis la rencontre avec les Litchis, qui sont des musiciens avec qui je joue toujours. On a un groupe de rock psychédélique, free rock. Puisque c'est une autre partie de mon travail.
Oui, d'ailleurs, vous venez du rock, on allait en parler, mais comment vous faites justement cette relation, cette passerelle entre le rock, cette musique populaire, et cette musique plus savante, entre guillemets, qui serait la musique électroacoustique ?
Pour moi, la seule différence, c'est qu'en électroacoustique, c'est quelque chose qui va être plus mental, plus long à élaborer, beaucoup plus long à écrire. Je mets beaucoup, beaucoup plus de temps à composer électroacoustiquement, je suis très lent. Alors qu'en rock, il y a beaucoup plus d'improvisation. Je vais improviser, je laisse courir mes doigts sur le clavier, je suis avec des copains, et puis on joue et il se passe des choses. C'est tout à fait différent. Mais après, au niveau du mixage, par contre, j'applique un peu les mêmes recettes parfois que dans l'électroacoustique. Ce qui fait que quand on écoute certains morceaux rock que j'ai enregistrés, il y a certains passages qui sont assez électroacoustiques tout de même.
En 2007, vous participez à la création du Cercle pour la libération du son et de l'image. Quel était le fil rouge de ce groupement de compositeurs-interprètes ?
Le fil rouge, c'était le fait qu'on soit des... tout le monde était compositeur et pas instrumentiste. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que... puisqu'on a du mal à faire jouer notre musique, pourquoi est-ce qu'on ne la jouerait pas nous-mêmes ? C'était un peu ça l'idée au départ. Et puis aussi le fait de se dire, on va commencer à jouer avec des instruments électroniques et on aura même un chef d'orchestre de renommée pour le faire, Paul Mefano. Et puis il a bien voulu, donc il est devenu l'un des membres du CLSI, donc c'est une super expérience de pouvoir bosser avec quelqu'un comme Paul Mefano. Et puis on a participé au festival Stockhausen, où on a été jouer Procession et Kurzweilen. Donc ça c'était chouette aussi. Le CLSI nous a emmenés dans des endroits vraiment très prestigieux, donc ça c'était formidable. Et puis le fait d'être avec des compositeurs plus âgés que moi, beaucoup plus aguerris, moi j'ai beaucoup appris. Et je pense que aussi les plus âgés apprenaient aussi des plus jeunes, peut-être d'autres choses plus techniques ou les us et coutumes sont différentes.
Qu'est devenu ce groupe ?
Il continue, sans faire plein de concerts dans l'année, non, mais au moins 4 concerts dans l'année. Oui, ça continue. Il y a un site internet.
Alors, sur votre chaîne YouTube, vous avez présenté le générique du film La Planète Interdite. Alors, que représente ce film pour vous ?
Ah, Planète Interdite, c'est un film que j'adore, que j'ai vu petit, et un petit peu comme Pierre-Henri, hein, ces sons me faisaient à la fois peur et me fascinaient, et en même temps, j'avais envie de savoir comment on pouvait bien les fabriquer.
Et comment fonctionnait Roby le robot ?
Exactement, oui. Et finalement, ce film-là... pour moi, hein, je l'ai mis sur la chaîne YouTube parce que j'avais écrit un petit truc sur le design sonore. Et pour moi, c'est les débuts du design sonore. Hein. C'est parce que les Louis et Bébé Baron n'étaient pas considérés comme musiciens à l'époque. Hein. Ils étaient considérés comme des techniciens, ingénieurs du son. On ne savait pas très bien, ce n'était pas défini encore. Mais c'était finalement du design sonore quelque part, entre la musique et le son.
L'image est un élément prépondérant de votre démarche artistique. Pourtant, souvent, on entend parler de la suprématie de l'image sur la musique. Ça vous dérange pas ?
Pas du tout, parce qu'il n'y a jamais d'image sur mes musiques.
Vous avez travaillé quand même avec des vidéastes.
Oui, bien sûr, puisque je travaille beaucoup avec la vidéo. Je suis aussi ingénieur du son pour le documentaire, donc je connais très bien la façon dont on fabrique des images. Peut-être, d'ailleurs, c'est pour ça que je n'utilise pas les images généralement sur mes musiques. Dans les concerts que j'ai faits, j'ai utilisé un petit peu la vidéo, mais c'était il y a 20 ans. Voilà, c'est fini depuis un petit moment. Effectivement, l'image a tendance à prendre le pas sur le son, et c'est bien le problème. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop quand il y a une diffusion électroacoustique et une vidéo en même temps, parce que là, du coup, je décroche de la musique. J'ai un peu tendance à décrocher de la musique. Ouais.
retrouve une de vos œuvres en plusieurs mouvements, en tout cas en plusieurs parties qui s'étalent dans le temps, c'est Unisono. Parlez-nous un peu de cette démarche. Pourquoi ce titre déjà ?
Unisono, ben c'est en espagnol unison, un son unique. C'était une époque où j'étais un peu sur Max MSP, un logiciel qui permet, vous savez, de fabriquer des synthétiseurs ou des boîtes d'effets sur informatique. Et je m'étais pris au jeu et pendant plusieurs mois, je m'étais appliqué à fabriquer des synthétiseurs à moi, avec mes propres idées. Et puis j'ai fabriqué une pièce avec qui s'appelle Unisono et une partition. Donc on peut jouer cette pièce avec la partition et c'est une partition de paramètres. Et il y a donc plusieurs mouvements parce qu'il y a plusieurs Unisono qui jouent avec des sons différents de ce synthétiseur. Mais c'est pour 8 personnes, 8 laptops, 8 haut-parleurs en fait.
Même tenter une expérience avec la danse buto.
Oui, puisque je crois que c'était il y a 2 ans avec Elisabeth Damour, on était dans le festival, le très bon festival de Michel Titin-Schneider, en chair et en son. On était invité là-bas et donc Unisono a été joué avec une danseuse buto. Oui.
Alors vient de paraître Cosmos Privé, un disque qui regroupe un ensemble de pièces que vous avez composées, qui s'étale sur quelle période ?
Il y a 20 ans. Il y a 20 ans de musique. C'est presque un peu une sorte de panégyrique de ce que j'ai fait depuis longtemps. Il n'y a pas mes toutes premières pièces, mais il y a une pièce de 1997 tout de même. Et puis on va jusqu'à 2016. Voilà, jusqu'à Microsphère. Donc c'est une compilation, mais je ne veux pas qu'on imagine que j'ai mis là des morceaux parce que je ne savais pas quoi en faire. Il y a vraiment un vrai fil conducteur entre toutes ces pièces. Et Cosmos Privé, c'est vraiment l'idée qu'il s'agit de cosmos miniatures qui ne sont pas la représentation d'une réalité que j'aurais voulu copier. Non, c'est des cosmos intérieurs, comme on en a tous d'ailleurs. Ce sont les miens.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Mathis Favori, d'être venu nous parler.
Merci Bruno.
De tout ça, de cet itinéraire, de ce long itinéraire qui touche plein de facettes de la musique. Et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Ainsi s'achève cette tapage nocturne. Derrière la console était Antoine Viossa, attaché d'émission Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est l'heure de retrouver Création mondiale d'Anne Montaron.
À réécouter sur francemusique.fr.